Donc, notre lecture aujourd'hui, c'est le psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors, les psaumes sont bien sûr des poèmes et donc écrits dans un langage poétique. Mais même si ce sont des poèmes, les psaumes font tout de même partie de la Bible, donc partie des Écritures, la révélation de Dieu. Et donc, ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre à Timothée, dans 2 Timothée 3, versets 15 et 16, s'applique également aux psaumes, qui sont donc fondés dans la vérité de la révélation de Dieu. Paul dit donc « toute l'Écriture ». Notez, il ne dit pas simplement les textes de loi ou les textes historiques ou les évangiles. Il dit « toute l'Écriture », donc y compris les psaumes. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, même si ce psaume, c'est avant tout un poème, un cantique, il est aussi utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice. Donc, laissons Dieu nous parler à travers ce psaume qui parle justement de la nature de notre Dieu, qui parle de son peuple, qui parle de la relation que nous avons avec lui, et qui parle aussi du lien entre notre foi et notre louange. Puisque donc ce psaume commence par un appel à la louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. On pourrait même inclure le titre qui dit justement psaume de louange. Finalement, quand on réfléchit, toute la Bible est un appel à la louange, appel à louer Dieu en nous révélant qui est Dieu pour que cette révélation nous encourage à le louer. D'abord, la Bible nous encourage à louer Dieu en nous révélant que l'Éternel est le seul Dieu. Dans le verset 3, le psalmiste dit « Sachez que l'Éternel est Dieu ». Même si le Nouveau Testament nous souligne et nous aide à comprendre que ce seul Dieu existe en trois personnes, que sa nature est faite de trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, il reste tout de même un seul Dieu, non pas trois. Il n'y a pas juste une personne, il y en a trois dans la Trinité, mais en même temps, il est un seul Dieu, comme le dit la confession de foi de base de la foi juive dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Il est le seul Dieu. Trois personnes, mais un seul Dieu. Ésaïe 45, verset 5. Dieu dit, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre à part moi. Il n'y a point de Dieu. Donc, Dieu nous montre de manière très claire qu'il est le seul Dieu. S'il est le seul Dieu, il mérite toute la louange en tant que Dieu. Alors, il est vrai que nous vivons bien sûr dans un monde où il y a plein de divinités, plein de fois différentes, mais Dieu nous dit dans sa parole que lui, il est le seul vrai Dieu. Donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à l'église de Corinthe, il était en train d'écrire non pas à un groupe de personnes, à une église principalement faite de juifs, mais principalement de païens qui, eux, vivaient dans une ville où il y avait plein de temples dédiés à d'autres dieux. À l'époque, dans le Nouveau Testament, il y avait dans les régions où les églises se sont implantées des panthéons remplis de dieux, de divinités. Et donc, Paul, qui cherche à leur faire connaître le seul vrai Dieu, qui les enseigne à louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à travers Jésus, il reconnaît que ces divinités existent, mais il dit, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, l'apôtre Paul reconnaît l'existence de ces dieux, mais il dit en même temps, même si les hommes les appellent dieux, ces divinités-là ne sont pas Dieu, car il n'y en a qu'un, celui qui s'est révélé à travers Moïse en disant « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Et Paul souligne donc le fait que ce seul Dieu, c'est celui qui nous a créés. On voit la même chose dans le psaume 96, verset 5. Là, le psalmiste dit, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Donc la Bible nous montre que l'Éternel, il est le seul Dieu, et il est notre Créateur. Du coup, il est normal de le louer, puisqu'il a tout créé. La Bible nous révèle également que l'Éternel, Éternel, ce n'est pas uniquement son nom par lequel il s'est révélé, c'est aussi sa nature. Il est le Dieu éternel. Alors pour nous, quelque chose d'éternel nous dépasse quelque part, dépasse notre compréhension, notre entendement. Nous, on peut à la limite visualiser ce que c'est d'être infini, mais les choses infinies, ils ont un point de départ sans jamais avoir de fin. Mais Dieu, la Bible nous dit, il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Lui, il n'est pas lié au temps comme nous le sommes. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu, nous dit la Bible, ne change jamais, puisque comment changer? Le temps ne le change pas, ne l'affecte pas, parce qu'il n'existe pas dans le temps. Il existe tout simplement en dehors du temps. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il était déjà là. Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis, non seulement en faisant appel au nom de Dieu, je suis celui qui suis, mais aussi en soulignant cette nature, que lui, il existait à leur époque, il existait à l'époque d'Abraham, il existe aujourd'hui, il existera toujours. Rien ne le change en lui parce que il existe en dehors du temps. Alors pour nous, cela nous dépasse. Mais donc cela nous invite à le louer tellement il est au-delà de nos connaissances, de notre compréhension, de notre expérience propre. En plus, la Bible nous révèle qu'il est tout-puissant, qu'il a tout pouvoir, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il a tous les droits et il peut faire ce qu'il veut. Il a le moyen de faire tout ce qu'il veut. Là aussi, ça nous dépasse. Mais aussi, ça nous invite à le craindre. Comment ne pas craindre un Dieu qui a tout pouvoir et toute puissance pour faire tout ce qu'il veut? Donc, forcément, on va lui rendre des comptes. Et cette crainte, finalement, ça fait aussi partie de notre louange, parce que la louange, il y a une partie qui concerne nos chants, bien évidemment, mais aussi la louange est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, et la crainte est une forme de louange, parce que la louange, c'est proclamer qui est notre Dieu. proclamer, mettre en avant la nature de notre Dieu. Si on craint notre Dieu parce qu'on sait qu'il a tout pouvoir et qu'il est tout puissant, c'est donc aussi un moyen de proclamer qui il est. On est en train d'annoncer par nos attitudes qui est notre Dieu, et donc cela fait partie de notre louange de Dieu. Alors le verset 4 parle en particulier de cantiques, de chants de louange. Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Comme je disais, la louange, ça englobe nos chants de louange. Mais c'est beaucoup plus grand encore. Toute notre vie, nos attitudes sont à la louange de Dieu. Mais la Bible nous révèle également la nature, le caractère de notre Dieu, parce que cela inspire notre louange. Verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Donc forcément, on a envie de louer un Dieu tellement bon, tellement fidèle. Mais nos louanges, finalement, sont un acte de foi. La crainte de Dieu est fondée sur la base de cette foi, cette confiance que nous avons dans la révélation de Dieu, qu'il est réellement tout-puissant et on a reçu tout pouvoir. Notre louange de Dieu à cause de son caractère, de sa nature, est fondée dans la révélation que nous avons que Dieu est bon et qu'il est fidèle. C'est un acte de foi fondé sur ce qu'on nous dit au sujet de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 18, l'apôtre Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Dieu est esprit, nous dit-il dans un autre endroit. On ne peut pas le voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jean continue « Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, donc ce Jésus qui va révéler dans son évangile. Dieu le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. » Donc, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous croyons en Jésus, à travers lui, nous avons le moyen de connaître Dieu. » Pour nous, on n'est même pas dans la position de l'apôtre Jean. Nous n'avons jamais vu Jésus non plus, puisqu'on est né 2000 ans après qu'il a marché sur la terre. Jean, donc, nous invite à connaître Dieu à travers son témoignage quant à Jésus. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, il dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ça fait partie de l'introduction de son évangile. Donc, Jean est en train de dire « Personne n'a jamais vu Dieu à part Jésus. Pour vous qui n'avez pas vu Jésus, voici mon témoignage concernant ce que j'ai vécu avec lui. » D'ailleurs, dans l'introduction de sa première lettre, 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3, il dit explicitement « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Donc, Jean dit, j'ai écrit ce témoignage au sujet de Jésus, afin que vous puissiez connaître Jésus, que vous puissiez donc croire et à travers lui venir au Père qui est le seul Dieu, et qu'ainsi vous puissiez être sauvés et louer le seul vrai Dieu. Vous vous souvenez peut-être à la fin de son évangile. Jean raconte cette histoire qui a lieu après la résurrection de Jésus avec Thomas. Jésus, après sa résurrection, s'est révélé aux autres apôtres, les disciples. Thomas n'était pas là. Et donc, quand les autres disciples donnent leur témoignage à Thomas en disant « Nous avons vu Jésus ressuscité », lui, il dit « Mais moi, je ne vous croirai que lorsque moi-même je l'aurai vu et que j'aurai touché ses blessures. » Alors, lorsque donc Jean nous dit que Jésus est revenu et a parlé avec Thomas, il dit que Jésus termine en disant « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux, dans le sens béni, sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous, c'est notre cas. Nous croyons sans avoir vu Jésus. Et donc, Jean continue. Après avoir raconté cette histoire en disant « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Autrement dit, j'ai écrit ces choses pour que vous puissiez connaître le seul vrai Dieu à travers Jésus, sur la base de mon témoignage, étant de ces gens heureux, bénis, parce que vous aurez cru sans encore avoir vu Jésus. Donc nous louons Dieu sur la base des témoignages des apôtres et aussi des prophètes de l'Ancien Testament à qui le Saint-Esprit avait révélé des réalités au sujet de Dieu. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que une fois qu'on croit à travers ce témoignage à la vérité de Dieu, c'est comme si à ce moment-là, dans notre cœur, nous ressentons, nous faisons expérience de la présence de Dieu. Nous découvrons que cela est vrai pour nous-mêmes, dans notre propre expérience, sans l'avoir vu. Mais le Saint-Esprit vient nous révéler le Seigneur dans notre cœur et on découvre que les paroles du psalmiste dans le psaume 145, verset 18, sont tout à fait justes. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, nous louons Dieu à cause de ce que la Bible nous révèle au sujet de Dieu. Mais nous louons Dieu également à cause de ce que la Bible nous révèle au sujet du peuple de Dieu. Parce que nous croyons que nous faisons partie du peuple de Dieu par la grâce de Dieu. Bien évidemment, les psaumes étaient écrits premièrement pour le peuple juif. C'était des cantiques de louanges qui étaient écrits pour être utilisés dans le culte au temple à Jérusalem. Et donc, par exemple, dans la deuxième partie du verset 3, lorsque le psalmiste dit « C'est lui, c'est l'Éternel qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage », il parle bien sûr premièrement du peuple juif. Mais la Bible nous montre que donc Dieu avait choisi le peuple juif, avait fait d'eux une nation, les avait placés parmi les autres nations en disant « Votre rôle, c'est d'être mes ambassadeurs auprès des autres nations. » Ce choix, cette élection du peuple d'Israël n'était pas censé dire que Dieu ne s'intéressait qu'au peuple d'Israël et ne voulait la louange que du peuple d'Israël. Dieu désire, puisqu'il est le créateur de tous, on a déjà vu dans un autre texte, mais aussi Éphésiens 3, versets 14 et 15, dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Tous, nous sommes des créatures de l'Éternel. Nous sommes ces créatures créé pour le louer, pour le glorifier, quelle que soit donc la nationalité. Mais donc Dieu avait choisi Israël pour attirer les autres nations vers lui, d'où ce premier verset du psaume 100, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Dieu est le Créateur de tous, il souhaite donc être loué de tous. Ceux qui ont suivi les études bibliques dans Ésaïe, là aussi on a vu Ésaïe révéler que le plan de Dieu était toujours de se constituer un royaume, un peuple pour le louer, qui serait finalement fait de toutes les nations, de toute nationalité, de toute tribu. Et c'est ce qu'on voit se réaliser dans le ministère de Jésus, ou à travers le ministère de Jésus. Quand on lit par exemple Apocalypse 5, versets 9 et 10, et louange de l'agneau dans les cieux, Jean nous dit, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Un peuple, un royaume fait des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation pour louer leur Créateur. Mais le verset 3 de notre psaume révèle cette réalité qui nécessite la foi. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous surtout, qui ne sommes pas des Juifs de naissance, nous ne pouvons dire ça que par la foi. Nous croyons donc qu'en Jésus-Christ, Dieu est en train d'accomplir son projet de se faire un peuple faites de toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, afin d'être loué par toute sa création. La Bible nous montre que simplement être un être humain, exister comme être humain, être né, ne suffit pas pour faire partie de ce peuple. Dans Jean 3, verset 6, Jésus disait à Nicodème, « Ce qui est né de la chair, est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut naître de nouveau. » Le fait qu'on soit né une première fois, ça ne suffit pas pour faire partie de ce peuple que Dieu est en train de se faire, parce que la Bible nous dit que nous sommes tous, juifs ou non-juifs, enfermés sous le pouvoir du péché. Et Paul souligne dans 1 Corinthiens 15, 50 que le problème, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. D'où Jésus disait, il faut naître de nouveau, il faut être transformé par le Seigneur pour faire partie de ce peuple. Donc Dieu a envoyé le bon berger, Jésus, afin qu'il devienne par son sacrifice la porte d'entrée dans la bergerie pour ses brebis, pour que, en passant par lui, nous puissions dire « Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » C'est ça, être sauvé par la foi. Nous croyons que c'est ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ, et donc nous le louons. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 10, Pierre écrit « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, donc vous qui croyez, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous qui croyez, qui n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu à travers Jésus-Christ, nous pouvons dire avec foi, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc le psalmiste dit du coup, si cela c'est vous, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Dieu nous fait grâce et nous sommes appelés à vivre par la foi et donc de louer Dieu par la foi. Mais cette foi va aussi nous encourager à louer Dieu par notre obéissance. J'avais mentionné tout à l'heure que la louange, c'est beaucoup plus vaste que simplement des chants. Les chants en font partie, mais il y a d'autres aspects aussi. On a vu la crainte de Dieu en fait partie, mais aussi l'obéissance fait partie de la louange. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. S'il nous a fait, s'il est notre créateur, ben c'est à lui d'établir les règles de la vie. Et d'autant plus, s'il a fait de nous son peuple, s'il nous a placés dans son royaume qu'il a fait pour lui-même. Nous lui appartenons, dit le psaume. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous devons reconnaître la grâce qu'il nous a fait en nous plaçant au sein de ce peuple. Donc, nous lui devons tout. Et donc, c'est à lui de fixer les règles de vie au sein de son royaume. C'est à nous, si nous croyons que nous sommes entrés dans ce peuple, que Dieu nous a donné notre place au sein de ce peuple, de son troupeau, c'est à nous de lui obéir, de respecter les règles qu'il a mises en place pour son royaume, d'autant plus que nous lui appartenons. Vous souvenez, les anges disaient à l'agneau, « Tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Nous avons été rachetés par lui. Notre vie lui appartient donc. Et donc, c'est à lui de pouvoir nous dire ce que nous avons à faire. Pour nous, l'objectif doit être de laisser Dieu gouverner notre vie parce que nous croyons par la foi qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Laisser Dieu gouverner notre vie, c'est probablement l'aspect le plus difficile de la vie chrétienne et de la louange. Parce que c'est là que notre foi se trouve en opposition avec notre nature humaine qui voudrait gouverner lui-même notre vie. Les gens voudraient pouvoir dire, nous, si nous sommes honnêtes, nous voudrions quelque part pouvoir dire, à cause du péché qui reste accroché à nous, comme dit l'auteur aux Hébreux, nous voudrions continuer à gouverner notre propre vie, dire, bah, c'est ma vie à moi. Dans Romains 7, verset 19, même l'apôtre Paul reconnaissait, je ne fais pas le bien que je veux, basé sur le fait que je crois faire partie du peuple de Dieu, et je fais le mal que je ne veux pas, à cause du péché qui reste accroché à moi. Notre expérience est la même, mais par la foi, nous devons dire, je crois que l'Éternel est Dieu, que c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, que nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage, et donc je cherche à lui obéir. Alors lorsque, parfois, notre ancienne nature reprenne le dessus et que ce péché qui reste accroché à nous fait de sorte qu'on désobéit à Dieu, qu'on chute, là, la Bible nous encourage à ce moment-là à reconnaître toujours les réalités de ce psaume, de reconnaître que l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération, et de revenir par la repentance, se remettre sous sa gouvernance en confessant notre péché et en plaidant le sacrifice de Jésus pour couvrir notre péché. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Ce Dieu qui est bon, qui est fidèle selon le psalmiste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelque part, lorsqu'il faut se repentir, même notre repentance devient une forme de louange, puisque nous proclamons ainsi que nous croyons réellement que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, comme il l'a dit. Le but, bien évidemment, ce n'est pas que ainsi on abuse de sa grâce en faisant mine que le péché n'est pas grave, mais nous reconnaissons que ce Dieu bon et fidèle nous fait régulièrement grâce et que sans cette grâce, de toute façon, nous serions perdus car nous ne ferions pas partie de son peuple. Donc, je ne peux que vous encourager à louer ce seul vrai Dieu, à faire comme nous dit le psalmiste, pousser vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen.